certaines personnes le savent déjà un petit peu, hein, pour avoir fait une formation de 5 ans. Voilà. Mais je crois que c'est intéressant de commencer par aborder les différents registres qu'on a en journalisme, ce peut donner aussi des clés après dans sa vie de citoyen, de décrypter un journal dans sa lecture. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de registres, d'articles. Un article, c'est vraiment très synthétique, très générique, de dire ça. Donc on peut commencer en faisant ce qu'on appelle le compte-rendu. Donc ça peut être le compte-rendu d'une manifestation, d'une conférence de presse sur n'importe quel sujet, d'un conseil municipal ou régional, voilà. Donc le compte-rendu, c'est avant tout donner au lecteur des informations qui sont factuelles. C'est-à-dire qu'on reste objectif. C'est vraiment un cumul d'informations, on les articule clairement, on résume un peu ce qui est dit, présente les tenants, les aboutissants, voilà, mais ça reste très neutre et très objectif le compte rendu, c'est très informatif. C'est pas forcément ce qui est plus excitant pour un lecteur. Voilà. Après, on a le reportage, je pense que ça vous parle tous plus ou moins quand même, qu'est-ce que c'est un reportage. On peut faire un reportage sur les manifestations, des enseignants en colère. On peut faire un reportage sur le maquillage des maisons de retraite, on met en prison des détenus, les coulisses d'un spectacle aussi, ça peut être un reportage. Le reportage, c'est un art qui n'est pas évident parce qu'on doit vraiment donner au lecteur, on doit lui donner à entendre ce qu'on a vécu, on doit lui donner à sentir, à ressentir, à voir. La description, il faut savoir capter une atmosphère, la saisir et puis après la restituer. Donc ça passe par un travail d'écriture. On peut s'amuser dans le reportage à travailler l'écriture. Et c'est aussi le journaliste qui sera sur place. Ça passe un peu par son filtre, celui qui va être sensible à telle chose ou à telle autre chose. Et on n'aura jamais deux mêmes reportages sur un même sujet, contrairement aux comptes rendus qui peuvent être très proches. Soit le Midi Libre ou l'Héros du Jour qui les font, ça peut être assez proche. Après, on a l'interview. Donc, l'interview, bien sûr, c'est avant tout recueillir les propos d'une personne. Et pour recueillir ses propos, il faut savoir la faire parler. Donc, à ce niveau-là, la préparation de l'interview, c'est très important. Si on y va les mains dans les poches sans avoir écrit aucune question, on peut être déstabilisé parce que l'autre va répondre, il va se sentir en roue libre, voilà. Donc il faut savoir préparer ses questions, il faut savoir guider notre interlocuteur, il faut savoir le recadrer quand on s'éloigne du sujet. Et puis il faut être aussi souple, c'est pas parce qu'on a fait une liste de questions qu'on va toutes les poser dans l'ordre où on a décidé de les poser, ça rime à rien, il faut s'adapter aussi à ce que nous dit la personne en face. On pourrait se dire l'interview c'est assez facile une fois que c'est fait, mais non, pas vraiment, parce qu'il y a un gros travail de tri de l'information, de réécriture, parce qu'on est dans une parole orale, donc la personne elle peut laisser défiler ses idées comme ça, elle peut faire des fautes de syntaxe, elle peut faire des fautes de français, donc on va pas laisser ça tel quel à la publication. Donc ça peut vraiment demander, selon la personne qu'on a en face, un énorme travail de réécriture. De couper les aspects les moins intéressants, de mettre en valeur les plus intéressants. Et c'est vrai que des fois, les personnes vont dire « C'est incroyable, je ne savais pas que je parlais aussi bien. » Voilà. Soit on leur dit qu'on a un petit peu réécrit leurs propos. Mais c'est vrai que les jeunes personnes qui sortent d'école de journalisme croient qu'il faut absolument laisser au millimètre ce que la personne a dit. Non, surtout pas. Il faut réécrire. Donc ça, c'est l'interview. Qui peut, je pense, l'interview être pas mal dans les newsletters. Je pense que vous pouvez être amené à faire ça pour focaliser sur un sujet donné, un spécialiste, enfin même pour une association. Je pense que c'est un genre à utiliser. L'interview, c'est vivant. Des fois, la personne qui est spécialiste sur un sujet ne racontera jamais aussi bien ce sujet que nous. Donc là, on se dit, on va la laisser parler. Par exemple, si moi j'interviewe un poète qui dit des choses magnifiques, je vais laisser défiler son écriture plutôt que de tout réécrire moi-même. Ça sera plus clair, enfin, ça sera plus direct, ça sera plus vivant. Donc, un des grands genres journalistiques aussi, c'est le portrait. Pour moi, c'est l'un des genres le plus difficile, le portrait, parce qu'il faut passer beaucoup de temps avec la personne. Pour moi, c'est minimum 2 heures. si possible, aller chez elle, pour voir son environnement. Et on a un rapport intime avec la personne qu'on interviewe, parce qu'on creuse des choses, et puis comme ça, la conversation étant, elle va nous dire beaucoup de choses, qu'on va décider, nous, de ne pas écrire pour la protéger aussi. Les personnes, des fois, peuvent se confier très facilement, raconter des éléments de vie privée. On va mettre un petit peu de côté. Le portrait aussi, comme le reportage, c'est l'art de l'écriture. Personnaliser l'écriture, être surtout pas scolaire et surtout pas universitaire, parce qu'il y a ça aussi. Quand on sort de l'université, on a tendance à avoir un style un peu trop universitaire et un peu trop scolaire. Ça, c'est quand même très pénible pour un lecteur qui veut quelque chose de vivant. Donc ça, ils vont vraiment le proscrire. Et dans un portrait, on va aborder l'apparence physique d'une personne. Ça passe par là, c'est très important. La couleur de ses yeux, sa façon de bouger, sa façon de s'habiller, le timbre de sa voix. On peut parler de ses goûts politiques. On peut dire de quel milieu vient cette personne, qu'est-ce que faisaient ses parents. Tout ça, ça donne vraiment une couleur à un individu. Le portrait, on mélange aussi des informations privées, des informations publiques. Si la personne est connue, on peut la connaître. Ça, c'est un peu les bons plans de la Gazette. Donc, on parle au début avec 2-3 personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les bons plans de la Gazette. On va prendre la directrice du zoo du Minaret. Donc, on sait à peu près ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle est dans la vie privée? Ça, on n'en sait rien. Et c'est ça qu'on a un peu envie d'apporter. C'est vous. Voilà. Et c'est parfois plus difficile de saisir la vérité d'une personne que de saisir la vérité d'un fait. C'est pas... Voilà. Pour moi, c'est très, très délicat, le portrait, mais à la fois très plaisant. Et pour moi, si ça vous intéresse, le portrait, le meilleur exemple, c'est Libération. C'est un peu eux qui ont inventé ça, la dernière page de Libération. Ils ont des portraits fabuleux. Et je vous en ai apporté un... Je vais vous distribuer... qui est assez dur parce que c'est écrit encore en franc, donc ça doit dater d'avant 2000. Il y a trois pages, je vous laisse. Donc ça a été écrit par Luc Levaillant, qui est le directeur de la rubrique Portrait et Libération. Eux, ils y passent une semaine pour faire un portrait. C'est du luxe. Moi, si j'avais une semaine pour faire un portrait, je serais vraiment heureuse. C'est pas le cas.
En même temps, c'est un petit peu, je trouve que c'est intéressant, c'est leur marque un peu j'imagine mal Libération sans ce portrait.
Voilà, après ils ont été pompés dans tous les sens.
Ils ont été pompés, mais pompés sans ça, c'est pour moi, ils seraient estropiés.
C'est tous les jours derrière. Et c'est très plaisant parce que donc le portrait, comme je vous disais, c'est une écriture très personnelle. Et vous allez voir dans celui-ci, on rentre presque dans la littérature. C'est fabuleusement bien écrit. Il y a beaucoup de psychologie, c'est très bien classé, il a tout à fait, donc c'est sur Zidane, hein, sur Zizou, il a tout à fait saisi sa personnalité, il donne plein de détails. C'est ça aussi, de l'art de donner du détail sans noyer non plus le lecteur sur le détail. Donc c'est là aussi un équilibre à trouver. Voilà, donc ça vous pourrez lire tranquillement, c'est un bon exemple je crois, d'écriture de portrait. Alors après on a l'enquête. L'enquête, donc c'est un genre journalistique à part entière également. Il faut savoir que c'est un genre qui tend à disparaître dans les quotidiens parce que ça demande beaucoup de temps, une enquête. C'est de l'investigation. Et on a de moins en moins les moyens de payer des journalistes pour faire des enquêtes. Hélas. Parce que vous avez pu entendre cette critique qui reproche aux journalistes, c'est-à-dire d'écrire les mêmes choses, de donner les mêmes informations, d'être uniforme, d'être fade. Or, l'enquête, ça veut dire, moi, je ne vais pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on me dit, je vais aller creuser, je vais aller chercher, et je vais vous démontrer par A plus B que cette information que vous nous avancez, par exemple, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, qu'il faut absolument se faire vacciner contre la grippe A, c'est pas forcément nécessaire, donc je vais faire une enquête pour montrer ça. Que tel médicament n'est pas nocif, c'est pas forcément vrai. Donc voilà. Donc c'est faire le tour d'un sujet, c'est essayer de faire des révélations que le commun des mortels n'a pas forcément. C'est un grand travail de recherche. On va cueillir de l'information, on va passer plein de coups de téléphone. On va se prendre des portes fermées. Il faut être assez diplomate aussi pour obtenir ces informations. Il faut savoir aller les chercher. c'est pas évident, il faut persévérer, enfoncer les portes ouvertes. Voilà. Et une enquête, elle prend du recul avec l'actualité. C'est respirer un peu, se mettre en arrière, regarder le paysage, et ne pas se laisser prendre dans un flot d'informations, donc, comme tout le monde dit, les mêmes choses. Donc ça, c'est vraiment l'enquête, le portrait, l'interview, le reportage et le compte-rendu. C'est vraiment les piliers de nos papiers, de nos gens journalistiques. Donc tous les matins, on va se dire, ce sujet, comment je vais le traiter ? Cette newsletter, comment je vais aborder mon petit papier aujourd'hui ? Est-ce que je vais trouver que ça nécessite plus un portrait, plus une interview, plus un simple compte-rendu ? C'est quand même déjà une première chose à se demander, pour savoir un petit peu où on va. Voilà, il arrive aussi qu'on aille sur le terrain sans savoir exactement ce qu'on va faire et qu'on se dise, vu ce qui s'est passé, c'est une interview, il n'y a pas de choc. C'est trop fabuleux ce qui a été dit. Après, on a des petits genres journalistiques que vous devez connaître aussi. On a la brève. La brève, c'est une toute petite information, très courte et très concise. Vous voyez ce que c'est une brève ? C'est quelques lignes. On ne va pas dire 40 choses dans une brève, on donne une information. C'est objectif, c'est pas signé. Tous les gens que je viens de vous citer avant, on signe. On prend en charge notre propos. Ça, c'est important. Celui-ci, on signe pas, c'est une information partagée. Alors, des fois, le Midi Libre va prendre une information sur l'Héros du Jour, va la mettre en brève, et vice-versa, l'Héros du Jour va prendre une information sur le Midi Libre et va la mettre en brève, et va même parfois écrire, comme l'a indiqué le Midi Libre. Voilà. Parce qu'on ne pique pas les sources de tout le monde sans mentionner qui a été le premier à révéler une petite information. Donc la brève, c'est très très utilisé. Je pense que pour vous, c'est super aussi les brèves. Parce que c'est concis, voilà. C'est une information essentielle. Ensuite, on a l'écho. L'écho, ça a trait à une personnalité ou à un élément de la vie publique de cette personnalité. Voilà, un petit écho. Pas besoin d'en dire plus. On fait un petit zoom sur Hélène Mondrou. Hélène Mondrou est en ce moment au Japon pour ouvrir une nouvelle maison pour tous. Ouais, c'est un petit écho. On a l'édito. Je pense que vous connaissez tous aussi ce que c'est un édito. Donc l'édito, en fait, c'est une pure opinion. L'édito, il est signé par le rédacteur ou par la rédactrice en chef. Mais finalement, cette prise de position, elle appartient à toute la rédaction. Il y a toute la rédaction qui est derrière. Mais c'est quand même le rédacteur en chef qui signe. Un édito, c'est aussi des choses un peu subjectives qu'on peut exprimer. Ça va donner un édito du Figaro et un édito de Marianne. Ça n'aura rien à voir, on est bien d'accord. Il y a un journal de gauche, un journal de droite. Donc ça laisse transparaître la couleur politique, la couleur sociale d'un support. Ça donne du tonus, ça donne du muscle à une réflexion, c'est assez intéressant les éditos. Et aussi dans une newsletter, je pense, faire un petit édito, ça peut être sympathique. Ne pas confondre avec un sommaire. Hein. Voilà. Et puis on a le billet aussi, le billet donc, qui est très très subjectif, qui n'appartient qu'à une personne, qui engage la personne qui l'écrit. Donc c'est un ton assez enlevé, assez vivant, ça peut être drôle, on parle de billet d'humeur aussi. Voilà. Par exemple, on n'apprécie absolument pas la politique de Frédéric Mitterrand. J'ai souvent des exemples culture, hein, c'est vraiment mon domaine. La politique culturelle de Frédéric Mitterrand, le choix qu'il a fait pour choisir un nouveau directeur au Centre dramatique de Montpellier. Récemment, on a changé de directeur au CDN de Montpellier. Paf, on peut faire un petit billet pour dire qu'on n'aime pas la façon dont ça s'est passé. Voilà. Mais on comprendra bien qu'on n'est pas dans la formation objective et que là, on peut dire à peu près ce qu'on veut du moment que ça soit quand même un peu cohérent. Voilà.
Moi, j'ai oublié d'ailleurs, ils sont souvent écrits par des gens, justement, je pense à des HL, des gens, enfin des comme ça, ou des gens qui n'ont rien à voir avec.
Ils n'ont pas
forcément d'appartenance ni politique, dans l'invasion, mais enfin, quand même, c'est ça qui est assez.
Dans un support médiatique, on va voir cet apport, cette contribution d'une personne extérieure qui sait écrire, qui sait manier les mots, voilà. Qui a des opinions. Un billet sans opinion, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir des choses à dire personnelles sur un sujet. C'est anti-fad, un billet. Voilà, donc en culture, vite fait, c'est un petit peu la même chose. Moi, je suis donc soit dans l'annonce d'un spectacle, Donc, par exemple, Jacques Boulès va présenter une nouvelle mise en scène au sein de son théâtre, le théâtre du Hangar. Moi, je n'ai pas vu le spectacle, donc je ne peux pas en parler. Vraiment, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais faire confiance à ce que lui, il me dit de ce spectacle. Ça, c'est une annonce. Et je vais mettre beaucoup de citations, parce que c'est lui qui le dit, moi, je ne l'ai pas vu. Alors, il se trouve que des fois, des artistes vont nous mettre l'eau à la bouche et qu'on va ensuite aller voir le spectacle et qu'on va trouver ça fabuleux. Ou d'autres fois, on va être complètement déçu. Mais bon, c'est le risque de l'annonce et on essaye bien de faire comprendre au lecteur qu'on n'a pas vu le spectacle, qu'on n'est pas en train de broder sur un truc qu'on n'a pas vu, que nous aussi, ce sera la surprise du spectateur si on décide d'aller voir ce spectacle. Voilà. Ensuite, on a également l'interview, hein, pareil, avec les intentions de mise en scène, pourquoi vous avez choisi cet auteur, quel est le propos de cette pièce, est-ce qu'il y a un... Alors, on ne parle plus de message maintenant, c'est complètement caduque, on arrête avec les messages, on parle plus d'intention. Voilà, ils sont vraiment allergiques, les gens de la culture, à qu'est-ce que c'est votre message. Et on a la critique. Donc la critique, je pense aussi que ça vous parle, vous voyez ce que c'est une critique culturelle. Là aussi, c'est un endroit subjectif. La culture, c'est le domaine le plus subjectif. On a le droit d'être subjectif. Et si on ne l'est pas, on manque un peu d'implication et d'idées personnelles, quand même. Donc, donner une critique, c'est donner une vision sur ce qui a été présenté. C'est donner un avis. C'est aussi être suffisamment cultivé sur ce sur quoi on parle pour avoir des références un peu historiques, des références d'histoire de l'art, pour donner des exemples, des contre-exemples. Et surtout, on argumente. On ne peut pas dire « c'était nul », évidemment. L'article s'écrit en trois lignes. Donc, pourquoi c'était pas bien? Qu'est-ce qui allait pas? On essaie de nuancer aussi qu'est-ce qui allait à côté. Ça allait pas, d'accord, mais il y avait aussi ça qui était bien. Donc, on développe les appréciations. Et pour ça, il faut évidemment donc une bonne connaissance du sujet. Voilà. Donc, je pense que là, on a fait un petit peu le tour des genres. Des gens qu'on utilise tous les jours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça, vous sentez que ça peut vous servir un petit peu dans votre travail d'avoir classifié ces différents registres?
C'est pas toujours certains, ils sont pas faciles
à appréhender. Après, je vous les ai donnés tous, hein, mais par exemple. Par exemple, l'écho.
L'édito, par exemple, est-ce que le newsletter, par exemple, est-ce qu'il n'est pas obligatoire de faire un édito à chaque fois qu'on fait un newsletter?
Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'obligatoire. Je ne suis pas sûre. Mais moi, je pense que c'est intéressant d'en faire un. Parce qu'on donne un peu la couleur.
Ça cadre un peu le.
Oui. Parce que. Nous, quand on ça la personnalise.
Ça, donc voilà, ça apportait une tonalité.
Et je disais, il ne faut pas confondre avec un sommaire, parce que l'édito, c'est pas dire aux personnes. Je vais vous parler de ça cette semaine, de ça et de ça.
Non.
C'est prendre un parti sur un sujet qui est éventuellement développé dans la newsletter.
Parce que c'est pas facile d'être dans un édito comme ça pour des gens. Parce que dans les newsletters comme ça qui sont un petit peu maison, c'est pas dire qu'il y a un rédacteur en chef. Donc c'est pas le rédacteur en chef qui va le faire.
Non, mais ça peut être le responsable de la newsletter.
Donc oui, enfin le responsable, on n'y en a pas. Donc souvent, c'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'il faut prendre des propos, moi j'ai souvent à les réécrire, mais en même temps, parce que c'est quand même assez perso.
Disons qu'un édito, il faut quand même qu'il soit fait par une personne qui sait écrire, je pense. On ne peut pas confier l'édito à tout le monde. Il faut former un peu la personne. Parce que ça peut partir très vite en sucette quand même. C'est bon, on peut continuer ?